3. Le cadran solaire occupait le fond du renfoncement, à la pointe du V formé par les deux murs. Devant se trouvait un panneau fixé sur un poteau en fer, effacé mais encore lisible, accès interdit. Le disque semblait mesurer 7 mètres de diamètre, soit, si mes calculs étaient bons, une vingtaine de mètres de circonférence. J'avisais les initiales de M. Bodich au-delà. Je voulais les voir de près. Elles m'avaient guidé jusqu'ici, et maintenant que j'étais arrivé à destination, ce dernier repère indiquait peut-être dans quel sens je devais tourner le cadran. Impossible d'y accéder avec le tricycle de Claudia, car il était entouré de piquets noirs et blancs d'un mètre de haut environ. Radar, tout ça, s'étrangla et tout ça encore. Elle haletait, elle frissonnait, un œil collé. L'autre me regardait. Son poil était emmêlé et plaqué contre son corps, et je voyais, bien malgré moi, combien elle était maigre, presque squelettique. Je descendis du tricycle et la hissai hors du panier. Ces frissons que je sentais contre moi ressemblaient à des convulsions. Un tremblement, une pause. Un tremblement, une pause. Bientôt, Fifi, bientôt. J'espérais avoir raison, car c'était son unique chance. Et ça avait marché pour M. Bodich, non? Pourtant, même après avoir vu la géante et la sirène, j'avais du mal à y croire. J'enjambais les piquets et traversais le cadran solaire. Il était en pierre, divisé en 14 parts de gâteau. Maintenant, je crois savoir combien de temps durent les journées ici, pensais-je. Un unique symbole, usé mais encore identifiable, était gravé au centre de chaque segment, les deux lunes, le soleil, un poisson, un oiseau, un cochon, un bœuf, un papillon, une abeille, une gerbe de blé, une grappe de baie, une goutte d'eau, un arbre, un homme, dans le plus simple appareil, et une femme, nue, elle aussi, enceinte. Des symboles de vie. En passant devant le grand poteau au centre, j'entendis les clic, 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 clic des yeux du soleil qui pivotaient de droite à gauche pour égrener le temps. J'enjambais les piquets du côté opposé en tenant toujours radar dans mes bras. Sa langue pendait sur le côté de sa gueule et elle toussait de manière ininterrompue. Ses heures étaient comptées. Je fis face au cadran solaire et aux initiales de M. Bodich. La barre du A dessinait une flèche légèrement incurvée, pointée vers la droite, ce qui signifiait que si je faisais tourner le cadran, à supposer que j'y arrive, il se déplacerait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça me paraissait logique. Je l'espérais. Si je me trompais, je serais venu jusqu'ici pour tuer ma chienne en accélérant son vieillissement. J'entendais des murmures, mais décidais de les ignorer. Je ne pensais qu'à radar et à personne d'autre, et je savais ce que j'avais à faire. Je me baissais pour l'allonger délicatement sur le triangle marqué par une gerbe de blé. Elle essaya de lever la tête sans y parvenir. Elle la laissa retomber sur la pierre et me regarda de son œil ouvert. Trop faible pour tousser désormais, elle pouvait uniquement émettre une respiration sifflante. « Je vous en supplie, faites que ce soit bien ça, faites que ça marche. » Je m'agenouillais et agrippais une des tiges fixées sur le bord du cadran. Je tirais vers moi d'une main, puis des deux. Rien ne se produisit. Radar poussait maintenant des râles de suffocation entre deux halètements. Son flanc se soulevait et retombait tel un soufflet. Je tirais plus fort. Rien. Je repensais aux entraînements de football, aux mannequins de plaquage. J'étais le seul capable non seulement de le faire reculer, mais aussi de le renverser. « Allez, tire, petit salopard! Tire si tu veux la sauver !» Je donnais tout ce que j'avais. Dans les jambes, le dos, les bras, les épaules. Je sentais le sang affluer dans mon cou, mes veines devaient être saillantes, et dans mon crâne. J'étais censé rester discret, mais impossible de réprimer des grognements d'effort. Monsieur Bodich avait-il réussi à actionner ce cadran? Je ne voyais pas comment. Juste au moment où je me disais que je n'y arriverais pas, je perçus un infime mouvement vers la droite. Je ne pouvais pas tirer plus fort. Impossible. Et pourtant si. Tous les muscles de mes bras, de mon dos et de mon cou étaient gonflés. Le cadran solaire se mit à bouger. Ma chienne ne se trouvait plus devant moi, mais un peu plus à droite. Je fis basculer le poids de mon corps dans l'autre sens et entrepris de pousser de toutes mes forces là encore. J'entendais la voix de Claudia qui me disait de me manier la rondelle. C'était exactement ce que je faisais, au risque de péter la rondelle en question. Une fois débloquée, la roue tourna plus facilement. La première tige étant derrière moi désormais, j'en agrippai une autre, fis basculer le poids de mon corps et tirai aussi fort que je le pouvais. Idem avec la tige suivante. Cela me rappelait le tourniquet de Cavanaugh Park, qu'on s'amusait à faire tourner à toute allure, Bertie et moi, jusqu'à ce que les mômes assis dessus hurlent de joie, puis de terreur, et que leur mère nous ordonne d'arrêter avant que l'un d'eux soit éjecté. Radar avait effectué un tiers de tour, une moitié maintenant, et voilà qu'elle revenait vers moi. Le cadran solaire tournait sans peine désormais. J'avais peut-être évacué un bouchon de graisse dans le mécanisme. Quoi qu'il en soit, je continuais à tirer sur les tiges, une main après l'autre, comme si je grimpais à la corde. Il me semblait percevoir un changement chez Radar, mais je me dis que je prenais mes désirs pour des réalités, jusqu'à ce que le cadran la ramène devant moi. Ses deux yeux étaient ouverts. Elle toussait encore, mais l'horrible respiration sifflante avait disparu, et elle dressait la tête. Le cadran tournant plus vite, je cessais de tirer sur les tiges. Je suivis du regard le second tour de Radar et vis qu'elle essayait de se dresser sur ses pattes arrière. Ses oreilles, bien droites, ne pendaient plus désespérément. Je m'accroupis, le souffle court. Ma chemise mouillée collait à mon torse et à mes côtes. J'essayais de déterminer combien de tours suffiraient. Je m'aperçus à cette occasion que j'ignorais son âge. 14 ans? 15 peut-être? Si chaque tour de cadran équivalait à une année, 4 lui feraient du bien. 6 la ramèneraient à la fleur de l'âge. Lorsqu'elle repassa devant moi, je vis qu'elle ne prenait pas seulement appui sur ses pattes avant, elle s'était assise. Et au troisième passage, j'eus du mal à en croire mes yeux, Radar se remplumait. Elle prenait du poids. Certes, ce n'était pas encore la chienne qui avait flanqué une peur bleue à Andy Chen, mais elle s'en approchait. Une chose me tracassait toutefois. Le cadran prenait de la vitesse sans que je tire sur les tiges. Au quatrième passage, je crus percevoir de l'inquiétude dans le regard de Radar. Au cinquième passage, elle était clairement terrorisée, et le souffle du cadran souleva les cheveux collés sur mon front par la sueur. Il fallait que je la fasse descendre, sinon j'allais voir ma chienne redevenir un chiot, puis plus rien. Au-dessus de moi, le clic-clic-clic-clic des yeux du soleil ressemblait plutôt à un clic-clic-clic-clic, et je savais que si je levais la tête, je les verrais pivoter de droite à gauche de plus en plus vite jusqu'à n'être plus qu'une tache floue. Dans des moments de stress extrême, de folles pensées peuvent vous traverser l'esprit. C'est ainsi que me revinrent en mémoire les images d'un western que j'avais regardé avec mon père durant sa période d'alcoolisme, Le Triomphe de Buffalo Bill. Je me souvins de Charlton Heston galopant à bride abattue vers un avant-poste isolé où un sac de courrier était suspendu à un crochet. Charlton s'en saisissait au passage sans ralentir. J'allais devoir récupérer Radar de la même manière. Ne voulant pas crier, je m'accroupis et tendis les bras en espérant qu'elle comprendrait le message. Lorsque le cadran revint vers moi, elle me vit. Alors elle se dressa sur ses quatre pattes. La vitesse faisait ondoyer son poil tel des mains invisibles qui la caressaient. Si je la manquais, Charlton Heston n'avait pas loupé le sac de courrier, mais c'était du cinéma. Je serais obligé de bondir sur le cadran, moi aussi, pour la récupérer et sauter en marche. Je risquais de perdre un an ce faisant, mais à situation désespérée, mesure désespérée. Il se trouve que je n'eus pas besoin de l'attraper. Quand je l'avais déposée sur le cadran solaire, Radar ne pouvait plus marcher seule. Après 5 et bientôt 6 tours, ce n'était plus du tout la même chienne. Elle s'accroupit sur son arrière-train, poussa sur ses pattes arrière, qui avaient retrouvé toute leur puissance, et bondit dans mes bras tendus. J'eus l'impression d'être percuté par un sac de ciment volant. Je basculais sur le dos, sous Radar, qui, les pattes avant plantées de part et d'autre de mes épaules, agitait furieusement la queue et me léchait le visage. « Arrête !» chuchotais-je. Un ordre qui manquait d'autorité, car je riais. et elle continua à me donner de grands coups de langue. Enfin, je pus me redresser et la regarder sous toutes les coutures. Elle, qui ne pesait plus que 20 ou 25 kilos, en faisait 35 ou 40 maintenant. Disparue, la respiration sifflante et les quintes de toux, tout comme les sécrétions séchées sur sa truffe, et les poils blancs sur son museau et sur son dos. Sa queue, drapeau en berne en lambeaux jusqu'à maintenant, ressemblait à un essuie-glace touffu. Mais le plus extraordinaire, l'indicateur le plus sûr des changements provoqués par le cadran solaire, c'était ses yeux. Ils n'étaient plus vitreux et absents, comme si elle ne savait plus très bien ce qui se passait en elle ou dans le monde qui l'entourait. « Regarde-toi » murmurai-je, obligé de sécher mes larmes. « Regarde-toi !» 4. Je la serrai dans mes bras et me relevai. Pas un instant, je ne songeais à aller rafler les pépites d'or. J'avais suffisamment tenté le diable. Inutile d'insister. Jamais cette nouvelle version de radar, grandement améliorée, ne tiendrait dans le panier fixé à l'arrière du tricycle. Un seul regard suffit à m'en convaincre. Et je n'avais pas pris sa laisse. Elle était restée chez Claudia, dans la charrette de Dora. Sans doute qu'au fond de moi, je pensais ne plus jamais en avoir besoin. Je me penchai vers elle, pris sa tête entre mes mains et plongeai mon regard dans ses yeux marron foncés. « Reste près de moi et ne fais pas de bruit. Chut, radar !» On refit le chemin en sens inverse. Je pédalais et radar trottait à ma hauteur. Je pris soin de ne pas regarder les temps en passant. Alors qu'on approchait du passage, la pluie se remit à tomber. Arrivé au milieu du passage, je mis pied à terre. J'ordonnai à radar de s'asseoir et de rester là. À petits pas, le dos collé au mur tapissé de mousse, j'avançai vers la sortie. Radar me regardait, sans bouger. Brave chienne. Je m'arrêtai une fois en vue de l'accoudoir doré de ce trône aux ornements grotesques. Je fis encore un pas et tendis le cou pour constater qu'il était inoccupé. La pluie crépitait sur le dais à rayures. Où était Anna? Dans quelle partie de la maison? Et que faisait-elle? Autant de questions auxquelles je n'avais pas les réponses. Peut-être était-elle en train de savourer ce plat qui sentait le porc, mais n'en était probablement pas, à moins qu'elle ait déjà regagné ses appartements pour faire sa sieste. On ne devait pas s'être absenté assez longtemps pour qu'elle ait déjà fini de déjeuner, mais ce n'était qu'une supposition. Ces derniers épisodes, d'abord la sirène, puis le cadran solaire, avait été intense. D'où je me trouvais, je voyais la fontaine à sec droit devant. Elle nous offrirait une bonne couverture à condition de ne pas être repérée avant de l'atteindre. 50 mètres à parcourir seulement. Mais lorsque j'imaginais les conséquences si on se faisait prendre, cela me paraissait beaucoup plus loin. Je guettais les beuglements de Anna, sa voix encore plus puissante que celle de Claudia, en vain. Pourtant, quelques couplets d'une chanson paillarde auraient été les bienvenus pour la localiser. Mais voilà une chose que j'ai apprise dans la ville hantée de Lilimar. Les géantes ne chantent pas toujours au moment où vous voudriez qu'elles chantent. Il fallait faire un choix. Et je décidai d'essayer d'atteindre la fontaine. Je rejoignis Radar et m'apprêtais à remonter sur le tricycle quand un son retentit à gauche de l'extrémité du passage. Une porte qu'on claque. Radar sursauta et tourna la tête dans cette direction. Un grognement prit naissance dans sa gorge. Je me jetai sur elle avant qu'il se transforme en une salve d'aboiements. « Silence, Radar ! Chut !» J'entendis Anna marmonner des paroles que je ne compris pas, puis lâcher un de ses pets tonitruants. Cette fois, je n'eus pas envie de rire. La géante marchait à pas lourds vers l'entrée du passage. Si elle regardait à droite, on pourrait se plaquer contre le mur, Radar et moi, et peut-être qu'on passerait inaperçu dans la pénombre. Mais même si Anna était Miro, le tricycle de Claudia était trop gros pour qu'elle ne le remarque pas. Je dégainai le revolver de M. Boditch et le tins le long de mon corps. Si elle se tournait vers nous, je lui tirerais dessus. Et je savais très précisément quel endroit je viserais. Cette fissure bordée de rouge qui barrait son front. Je ne m'étais jamais entraîné au tir avec l'arme de M. Bauditch, ni avec aucune autre, mais j'avais une bonne vue. Et même si la première balle manquait sa cible, j'aurais encore 4 chances. Le bruit ? On s'en fout, décrétai-je en pensant aux ossements éparpillés autour du trône. Heureusement, pas une fois elle ne se tourna vers nous, ni même vers la fontaine. Elle regardait ses pieds en continuant à marmonner, ce qui me rappelait mon père la fois où il avait dû faire un discours lors du dîner annuel d'Overland National Insurance parce qu'il avait été nommé meilleur employé régional de l'année. Elle tenait quelque chose dans sa main gauche, partiellement masquée par sa hanche, jusqu'à ce qu'elle le porte à sa bouche. Elle sortit de mon champ de vision avant de mordre dedans. Tant mieux, car j'étais quasiment certain que c'était un pied qui portait déjà des empreintes de dents sous la cheville. Je craignais qu'elle se rassoie sur son trône pour achever sa gourmandise de fin de repas, mais apparemment la pluie l'en dissuada malgré la protection du dais. Ou peut-être qu'elle avait juste envie de faire la sieste. Quoi qu'il en soit, une autre porte claqua sur notre droite cette fois. Puis ce fut le silence. Je rengainai le revolver et m'assis à côté de ma chienne. Même dans la pénombre, je voyais combien elle paraissait jeune et robuste. Je me sentais joyeux. Ce mot peut vous paraître insipide, mais pour moi il ne l'est pas. Je considère la joie comme une chose très très importante. Je ne pouvais pas m'empêcher de caresser son poil, émerveillé par son épaisseur.